Chapitre 3. En quittant son neveu, le marquis monta vers la haute ville pour reprendre le chemin de la Merlinière. Il marchait la tête basse, regardant au-dedans de lui-même comme il arrive aux songeurs. Dans son âme passaient et repassaient, procession tumultueuse et lugubre, les souvenirs d'autrefois. Par moments, la scène muette dont il venait d'être témoin entre Jean et la fille du brocanteur revivait en lui, importune comme une question insoluble. Ce regard, ce sourire qui l'avait d'abord étonné, l'inquiétait à présent. « En somme, se dit-il en s'arrêtant, pourquoi m'émouvoir? Un regard, un sourire, qu'est-ce que cela ?» Il fit encore quelques pas et s'arrêta de nouveau. « A-t-elle vraiment souri ?»« Eh oui, elle a souri, et même je me rappelle qu'elle ressemblait en ce moment. Quelle chose étrange, elle ressemblait !» Il y a des parentés d'expression que rien n'explique si ce n'est peut-être le même rayonnement divin dans les âmes également pures. Et il serrait sous son bras le petit miroir dont le cristal touchait son cœur. Parvenu à la moitié de la rue Saint-Julien, il se détourna de la route qu'il suivait et prit la rue haute Saint-Martin. « Je veux en avoir le dernier mot avant ce soir, » se dit-il. « Et le meilleur moyen d'éclaircir l'affaire, c'est d'aller voir Maître Furondeau. Quand on a l'esprit travaillé de quelque méchante aventure, il y paraît toujours dans la conduite. Si mon neveu est dans ce cas, je le saurai, je veux le savoir. » Maître Furondeau, chez lequel Jean de Trémière était employé en qualité de clerc logé, habitait à l'extrémité de la rue haute Saint-Martin, tout près de l'église de ce nom, l'ancien manoir des Pontoises, qu'on appelait la maison des Trois Échelles. Cette maison, aujourd'hui démolie, avait trois issues sur trois rues et attenait par derrière aux hôtelleries de Saint-Martin, de l'Ours et du Dauphin. L'heureux emplacement de son étude avait été pour quelque chose dans la fortune très considérable que Maître Furondeau avait commencé sous l'Ancien Régime, décuplé sous la Révolution, arrondi sous l'Empire et qu'il comptait achever sous la Restauration. Mais l'adroit notaire devait encore davantage aux circonstances et à son tempérament exceptionnel d'homme de lucre. Il était de ceux qui naissent pour devenir riches, qui le deviennent fatalement, que les circonstances en apparence les plus contraires servent autant que les bonnes, qui sont condamnés à être millionnaires sans savoir l'être. Ces hommes exercent sur l'or une attraction magnétique. Ils ont deux mains pour recevoir et pas une pour donner. Ce sont des citernes où la richesse s'amasse comme une eau stagnante que rien n'évapore et qui ne rafraîchit rien autour d'elle. Des trois issues de son hôtel, l'une était pour le notaire et pour sa famille. La seconde servait aux clients ordinaires. Par la troisième entraient, à certains jours, les prodigues de la ville et aussi de pauvres gentilshommes ou bourgeois ruinés par l'un ou l'autre des gouvernements précédents et qui lui empruntaient avec reconnaissance l'argent qu'il avait gagné à vendre, sous la République, leurs terres, leurs prés et les logis de leurs ancêtres. Maître Furondeau était empressé avec les grands et pressé avec les petits. Adroit à dissimuler une bonne affaire sous l'apparence d'un service, plein de bonhomie et d'insensibilité, habile à se contredire dès qu'on lui demandait une affirmation, prôneur de toutes les tolérances parce qu'il avait besoin de toutes les indulgences et partisan convaincu de tous les régimes politiques dont il s'était également servi. En vain, les libéraux, qui le croyaient libéral, avaient essayé de le pousser aux élections. Il avait préféré rester l'ami des élus. « Une place qu'on prend, c'est un ennemi qu'on se fait, » disait-il, « même quand la place est vacante. » Depuis le retour de Louis XVIII, il était devenu royaliste, ou plutôt n'avait jamais cessé de l'être. Combien étaient-ils alors, combien sont-ils encore en France, ceux qui se disent vieux serviteurs des régimes nouveaux ? On remarquait de grandes modifications dans son costume, plus soigné, plus recherché et dans ce qu'on pourrait appeler son régime religieux. Il allait ostensiblement à la messe les jours de grandes fêtes et parlait avec componction des égarements funestes de la Révolution. Voyant que la monarchie se consolidait et que les affaires prenaient de l'essor, il avait même formé le projet, et ne s'en cachait pas, de changer son meuble de salon, qui était de style empire, pour un meuble Louis XVI ou même Louis XIV, selon le tour que prendrait la politique. Le marquis de La Hansay entra par la petite porte des clients sans reproche, traversa un long couloir sur lequel s'ouvrait un grand nombre de portes, passa près de la salle des clercs, ancienne cuisine monumentale changée en atelier de calligraphie, où 12 clercs de tous âges et de tous cheveux écrivaient sous l'œil morne et sévère d'un vieux praticien blanc comme sa plume, et frappa à la porte du cabinet de maître Furondeau. « Entrez, dit la voix roulante du notaire, et veuillez vous asseoir, je suis à vous. » En récitant cette formule, maître Furondeau n'avait pas levé les yeux. Il paraphait une lettre. Quand il eut fini, il regarda son visiteur, le reconnut, vint à lui avec empressement en lui tendant les deux mains. Le marquis n'en toucha qu'une du bout des doigts. « Comment allez-vous, monsieur le marquis ?»« Fort bien, j'ai, vous le savez, une santé à toute épreuve. Et mon neveu, maître Furondeau, êtes-vous content de lui ?»« De monsieur le chevalier de Trémière ? Mais certainement, monsieur le marquis, certainement. » De grâce, ne lui donnez pas ce titre auquel il a droit, le pauvre enfant, mais qui fait une singulière figure dans l'état civil d'un clerc de notaire. Est-il toujours appliqué au travail ? Très appliqué, comme par le passé. N'aime-t-il pas trop à quitter l'étude, à courir la ville ? Il ne sort que par mon ordre, c'est un principe chez moi, monsieur le marquis. Les clercs que je loge sont surveillés, choyés, soignés, comme des enfants de la maison. Et son caractère est-il resté le même ? N'avez-vous pas remarqué chez mon neveu de ces brusques changements d'humeur que l'âge expliquerait en partie ? 20 ans, l'âge des giboulées. Mais non, monsieur le marquis, monsieur Jean est d'humeur égale, joyeuse même. Il sait être très sérieux quand il le faut, seulement... Seulement ? Il n'a pas l'esprit d'affaires. Jamais il ne fera un notaire. Jugez-en par un seul trait. Il y a 8 jours, une de mes locataires vient chez moi pour me payer son terme de loyer. Il lui manquait 30 francs qu'elle déclarait ne pouvoir payer tout de suite, disant qu'elle était veuve, qu'elle avait plusieurs enfants, que le travail n'allait pas. Vous savez, ces locataires en retard ont toujours des raisons à donner. Je ne l'écoute même pas, je la renvoie et je l'avertis qu'elle aura la saisie chez elle dans la huitaine. C'est mon système et c'est le bon. Voilà cette femme qui se met à pleurer. Monsieur de Trémière était présent. Il tire sa bourse et me donne les 30 francs, ses économies de 3 mois peut-être. Je les ai pris, mais vous comprenez que ce n'est pas ainsi qu'on devient homme d'affaires. « Il a bien fait, » dit vivement le marquis. « Tout enfant, il avait le cœur généreux. » Maître Furondeau repartit, sans paraître s'apercevoir du compliment. « Généreux, on l'est dans toute votre famille, monsieur le marquis. Vous avez fait vous-même une grande générosité en recueillant cet enfant chez vous il y a plus de 10 ans, je crois. » « Oui, c'était en 1805, au printemps. » Rien ne vous obligeait à l'élever, à l'adopter en réalité, sinon en droit comme vous l'avez fait. Il est votre parent d'assez loin, vous n'étiez nullement obligé, je le répète, à le traiter ainsi. Ce que j'ai fait, tout autre au contraire, l'eût fait à ma place, maître Furondeau. Comment ? Voilà un pauvre enfant dont le père et la mère étaient morts en émigration, qui demande asile au dernier des Merlin, au dernier descendant d'une famille alliée à la sienne. Qui m'arrive à la merlinière tout petit, tout frêle, affamé, à peine vêtu, et je l'aurais renvoyé. Il m'a d'ailleurs bien récompensé de mes soins. Il a rendu joyeuse et utile la fin d'une vie qui sans lui eût été triste et sans but. Mais les années ont galopé, le petit Jean est devenu homme, et depuis 2 ans le voilà, faute de mieux, gratteur de papier. Nous n'avions pas le choix d'une carrière alors, c'était sous l'Empire. Aujourd'hui, je vois bien que le notariat lui déplaît, je l'avais prévu, mais que faire ? Il vous serait facile, monsieur le marquis, maintenant que nos princes légitimes, le notaire scanda fortement ces 2 mots, sont remontés sur le trône, d'obtenir une place pour votre neveu dans l'administration, dans les finances, que sais-je. Vous aurez ce que vous demanderez. Quand on a vos états de service, on obtient tout ce qu'on veut, pour soi et pour d'autres, ajouta maître Furondeau en clignant les petits yeux de sa grosse face. « Non, maître Furondeau, dit monsieur de La Hansay, qui se leva, voyant bien que le notaire ne lui apprendrait rien de ce qu'il voulait savoir. À moins qu'une absolue nécessité ne m'y force, je ne demanderai rien ni pour moi, cela va sans dire, ni pour d'autres. Outre qu'il m'en coûterait, je l'avoue, de solliciter quoi que ce soit, d'avoir l'air de me faire payer le sang que j'ai versé, je me trouverais en singulière compagnie parmi les quêteurs d'emploi. Dans cette foire aux vanités, on rencontre plus d'anciens bleus que de blancs. On pourrait croire que j'ai quelques vilainies à me faire pardonner. « Toujours le même, pas pratique, » repartit le notaire en riant. « Votre neveu vous ressemble. À une autre fois, monsieur le marquis, enchanté de vous avoir vu. » Maître Furondeau reconduisit monsieur de La Hansay jusqu'à la porte de la rue et, s'inclinant sur le seuil, Il enleva sa calotte à houppe d'une main goutteuse et maladroite.